5-2, qui est un résultat sur la consistance du schéma de Eun. Donc la première chose, donc je vais revenir peut-être avant de se lancer dans l'exercice, faisons un point de méthode. Donc pour le, ce qu'on va faire de manière générale, c'est que 1, on va identifier la fonction d'incrément phi delta t tz. Et ce qui est important, c'est de l'identifier avec des variables un peu neutres, qui ne sont pas y de t ou y exposant n, qui seraient les solutions du schéma numérique ou la solution exacte. On va vraiment faire fonction phi tz. Et ici, par exemple, pour le schéma de Eun, cette fonction d'incrément, on voit que c'est f tz plus f de t plus delta t, z plus delta t, f de tz. Voilà. Donc son expression se lit à partir du schéma numérique. Deuxième chose, on va écrire l'erreur de consistance, état n plus ou égal. Et ici, dans l'erreur de consistance, on va, je vais le mettre en rouge, ça ne doit faire intervenir que y de tn. Jamais, en tout cas, enfin, éventuellement y de tn plus 1, mais jamais, jamais je ne veux voir un yn comme ça, une solution de schéma numérique. L'erreur consistante, c'est vraiment l'erreur sur un pas quand on parle de la solution exacte. Donc à l'examen, quand je vois des yn comme ça dans l'expression de l'erreur de consistance, j'enlève systématiquement tous les points, parce que c'est une erreur conceptuelle majeure. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, développer phi delta t à l'ordre delta t à la puissance p. Et du coup, on va développer aussi y tn plus 1 à l'ordre delta t puissance p plus 1. Ça, c'est parce que dans l'erreur de consistance, que maintenant je vais peut-être écrire, c'est y de tn plus 1 moins y de tn moins phi delta t tn y de tn sur delta t. Donc ça, pour montrer que c'est égal à grand taux delta t puissance p. Donc ça, c'est pour quand on veut faire de la consistance d'ordre p. On veut montrer que l'erreur de consistance est d'ordre delta t à la puissance p. Donc en fait, il faut, quand on regarde les différents termes, il faut développer ytn plus 1 à l'ordre p plus 1. Et il faut développer, parce que, attends, pardon, ici j'ai oublié que la fonction d'incrément est multipliée par delta t. Donc du coup, la fonction d'incrément, elle, en fait, il suffit de l'étendre à l'ordre delta t à la puissance p. Voilà. Donc on développe ces choses-là. Et attention, pour la fonction d'incrément, je vous suggère d'étendre vraiment phi delta t de tz à l'ordre delta t à la puissance p. Et pas la fonction d'incrément, là, qui apparaît dans la définition de l'erreur de consistance. Ça vous simplifiera énormément les calculs. Alors, on va mettre ça en œuvre sur un cas particulier. Donc, c'était le schéma de Eun. Donc, la première question était sur... il faut un développement limité de ytn plus 1. Enfin, plutôt la première question, c'est... On commence par écrire les choses en delta t, y de delta t. Donc, par un développement de Taylor, vous pouvez vous regarder la correction en ligne du poly pour une jolie rédaction... Mais donc là, à l'oral, le développement Taylor vous dit que ben, on va développer ça en puissance delta t. Donc je note y point de 0, c'est la dérivée de la fonction qui a t associé y de t en 0. Et du coup, l'ordre suivant, c'est quoi? Puisqu'on veut aller à l'ordre 2, ça va être une dérivée seconde. Et puis après, il y a un terme grand taux de delta t cube. Donc pour les exercices sur la consistance, on va systématiquement... regrouper les termes d'ordre élevé dans un terme grand taux de delta t à la puissance, ce qu'il faut. Et on ne va pas chercher à les contrôler plus que ça, parce qu'on va se placer sur des trajectoires, ici, on va se placer au voisinage de la trajectoire continue du système, qui, sur un temps fini, reste dans un domaine borné, puis donc, du coup, autour, enfin, dans un compact, et puis autour d'elle, on va rester autour d'un compact qui est centré sur la trajectoire. Donc en fait, la fonction f, toutes ses dérivées, on va faire les hypothèses de régularité qu'il faut sur la fonction pour que tous ces termes-là soient bien bornés le long de la trajectoire et dans son voisinage. Donc ici, y point de 0, donc on va se servir de l'équation que satisfait f pour dire que ça, c'est f de 0, y de 0. Maintenant, donc, il faut dériver il faut la dérivée seconde de y point. Donc là, on va se servir du fait que y point de t, c'est f de t, y de t. Et donc, la dérivée seconde de y va être obtenue en dérivant la fonction du dessus par rapport au temps. Donc, ça va être d sur dt de f de t et de y de t. Donc c'est là que, déjà, certains, ça peut poser problème de calculer cette dérivée totale. Et donc pour ça, ce que je recommande, on va faire les choses de composante par composante, de manière à ce que ce soit plus simple. Et je vous recommande fortement de faire composante par composante pour éviter les erreurs de structure. Écrire qu'une quantité est un vecteur quand c'est une matrice, etc. Donc pour ça, donc, il faut voir que la fonction, le champ de force F, on peut voir ça comme un vecteur où chacune des applications composantes est une application qui va de RD dans R. Alors du coup, pour calculer cette dérivée totale au temps, pardon, cette dérivée totale en temps, on va regarder en fait les dérivées de chacune des fonctions élémentaires. Donc fi de t et de y de t. Là, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a des fonctions à valeur réelle. Donc ça, c'est simplement la dérivée partielle de fi au point t, y de t. Et puis après, il va y avoir une somme des dérivées par rapport à la jm variable d'espace de fi au point t, y de t, fois la dérivée de y point, fois la dérivée de yj point. Et ça, cette quantité-là, par définition de l'équation, c'est fj de t et de y de t. Voilà. Et ici, la somme porte sur j qui va de 1 à d. Donc du coup, quand on regarde ça, cette dernière quantité, je vais vous l'écrire en rouge en dessous, c'est en fait le gradient par rapport à y de fi, produit scalaire avec f, et tout ça au point t, y de t. Voilà, donc ça, c'est déjà, ce qui est important de voir, c'est que c'est bien une quantité qui est à valeur scalaire. Donc il y a bien une chance que ça, que ce soit ce qu'il nous faille. Donc comment est-ce qu'on peut résumer ça? Ainsi, qu'est-ce qu'on a? On a que y point point, enfin, ou plutôt, non, j'ai yi point point de 0, c'est égal, si je regarde la page précédente, donc elle a cette dérivée en temps. Du coup, ça nous fait dtfi plus gradient yfi produit scalaire avec f, et tout ça au point t, y de t. Et donc maintenant, si je veux écrire y point point de 0, je vais écrire les choses sous un format vectoriel. Donc je vais bien avoir dt de f point t, y de t. Ça, c'est simplement en prenant ces différentes dérivées partielles des composantes, et puis je les mets les unes sous les autres. Et puis, il va me rester un deuxième terme qui va être de dire que je vais en fait avoir une certaine matrice fois un vecteur f qui va être f1, fd. Et puis sur cette matrice, je vais avoir, sur la première ligne, je vais avoir le gradient de f1. Puis sur la deuxième, le gradient de f2. Et sur la dernière ligne, le gradient de fd. Puis entre. Donc ça, ici, je vais noter d rond yf. La matrice qui va avoir pour composante ij la dérivée de fi par rapport à la variable yj. Voilà. Et donc là, on va avoir un produit. Donc ça va être une matrice. Ce que je vais noter d rond yf, ça va être une matrice de taille d croix d. Voilà. Alors que le vecteur f est y0. Ça, c'est un élément de R puissance D. Donc voilà une manière de faire. Donc soit vous faites composante par composante, ou alors vous l'écrivez d'une manière un peu plus chic matricielle, avec un D rond YI de F, mais qu'il faut bien comprendre comme étant une matrice de taille D croix D, avec les éléments de matrice qui sont ceux que j'ai indiqués en bas. Alors, du coup, une fois que j'ai ça, donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a que y de delta t, c'est égal à y de 0, plus delta t f de 0, y de 0, plus delta t carré sur 2, dtf plus dy de f, appliqué à f, au point t, y de t, plus quelque chose d'ordre delta t cube. Et de même, du coup, vous pouvez prendre cette formule, et vous pouvez regarder ce que ça donne au temps tn plus 1. Ça vous donne tn plus delta t f de tn y de tn. Et donc attention, là, c'est vraiment des y de tn, des y de tn plus 1, donc la solution exacte. Plus delta t carré sur 2, dtf plus dyf, donc matrice vecteur appliquée à f, en tn y de tn, plus un terme d'ordre 3. Et cette formule est extrêmement importante, parce que c'est le développement limité de la solution exacte sur un pas de temps, et c'est la référence qui va nous servir à chaque fois pour comparer l'erreur qui vient du schéma numérique et pour calculer l'erreur de consistance. Donc justement, erreur de consistance, venons-y pour le schéma de Heune. Donc, selon la méthodologie globale, la première chose qu'on va faire, c'est identifier la fonction d'incrément. Ici, la fonction d'incrément s'identifie assez directement comme étant 1/2 de f de tz plus f de t plus delta t et z plus delta t de ftz. Ensuite, on va écrire la fonction, l'erreur de consistance. Donc, je rappelle que l'erreur de consistance, c'est l'erreur qu'on fait quand on part de la trajectoire de la solution exacte sur un pas de temps. Donc, on compare à la solution exacte y de tn plus 1, et on va regarder ce que ça donne en partant de y de tn plus delta t f delta t de tn y de tn. Voilà, et puis ça divisé par delta t. Donc, on voudrait montrer que ça, c'est d'ordre 2. Donc pour montrer que c'est d'ordre 2, on va avoir besoin d'étendre cette quantité-là à l'ordre 2 aussi. Ça veut dire qu'on veut montrer que, donc je vais peut-être l'écrire en rouge en dessous, on veut montrer que cette chose-là, et en rouge, on veut montrer que cette chose-là, c'est égal à une constante plus delta t quelque chose, plus un grand taux de delta t carré. Et après, idéalement, on va compenser les termes. Et puis, au final, on aimerait bien que eta n plus 1 soit d'ordre delta t carré. Donc, ça suggère qu'il faut explicitement identifier le terme d'ordre 1 pour phi delta t. Donc, on y va. On va écrire. Et donc là, ce qui est important, c'est que je vais identifier ce terme d'ordre 1 avec ces arguments neutres que sont t et z. Et pas avec tn et y de tn, parce que c'est une voie royale pour se tromper dans l'argument. Il y a un moment... trébucher, puis écrire en y exposant n plutôt que y de tn. Puis même, de manière générale, les notations sont plus simples et plus rapides avec phi de t, delta t, tz. Donc en fait, pour faire ça, en fait, il s'agit de regarder le développement limité du second terme par rapport à delta t. Donc ça, phi de tz, c'est égal à quoi? Donc plutôt que de partir direct, on voudrait phi de tz, mais en fait, plutôt que de partir directement dessus, je vais écrire que phi de t plus delta t z plus delta t f de tz. En fait, c'est cette quantité-là que je voudrais développer en puissance de delta t. C'est encore un petit peu compliqué à cause du delta t f tz. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est je vais regarder t plus delta t et puis un z plus un w ici. Évidemment, générique z. Et puis éventuellement, ici, pour être symétrique, je vais vous faire un incrément qui serait θ. Donc vous pensez à θ et w comme des choses petites. Et après, je vais les remplacer par leur valeur. Donc cette quantité-là, ça fait quoi? Donc ça fait f de tz. Et ensuite, du coup, j'aimerais écrire des choses, mais attention, f est vectoriel. Alors je vais me poser une question, hein, est-ce que c'est un gradient? Bon. Pour faire les choses simples, je vous suggère de faire les choses composante par composante comme on a vu avant. Donc je vais regarder la im composante de f. Et à ce moment-là, j'ai une fonction à valeur réelle. et qui a comme argument bah, quelque chose qui est un vecteur, qui est TZ. Donc là, je peux appliquer tous les développements limités très simples qu'on voit d'habitude, qui sont que là, il y a une dérivée partielle en TZ fois l'incrément θ, et puis plus du coup le gradient par rapport à la variable z de fi au point tz produit scalaire w. Et puis plus un terme de reste qui va être en grand taux de la norme de w au carré et puis θ au carré. Donc si on voulait aller plus loin, ben là il faudrait introduire une SIN avec une, éventuellement une, et puis toutes les dérivées, enfin une SIN jointe sur les variables tz. Donc je glisse sur ce détail parce qu'on a besoin que d'aller à l'ordre 1 ici, mais si vous vouliez vraiment faire des schémas d'ordre plus grand, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc une fois qu'on a ce développement limité, qu'est-ce qu'on a Ainsi, du coup, on va pouvoir dire que fi de t plus delta t, et puis z plus delta t f de tz, on va pouvoir remplacer par les différentes expressions, ça va faire fi de tz plus delta t dt fi plus le gradient de fi produit scalaire avec f au point tz et puis plus quelque chose qui est d'ordre delta t au carré. C'est-à-dire qu'en fait que vous avez que ftz enfin, f de t plus delta t. F de t plus delta t. Z plus delta t, f de tz. Ça va être égal à f de tz plus delta t, la dérivée partielle de f par rapport au temps qui sera un vecteur, plus ce qu'on a vu avant, dyf appliqué à f en tz, plus un grand taux de delta t carré. Et ici, je rappelle que cette chose-là, c'est bien une matrice de taille d croix d. Voilà, donc on a un développement qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait avant. Et donc là, on va pouvoir conclure que phi delta t de tz, ça va être f de tz plus 1 demi, plus delta t sur 2, et puis ce que j'avais au-dessus, plus grand taux de delta t carré. Parce que je rappelle que mon phi de... Il est où ? Attends pour moi. Bref, j'avais identifié... Voilà, j'ai identifié ma fonction d'incrément dans la fonction de e, et c'est cette quantité-là. Voilà. Alors du coup, j'en suis à... Excusez-moi pour ces changements incessants. Une fois que j'en suis ici, je vais pouvoir réécrire mon erreur de consistance. Et donc je vais pouvoir au final conclure que, en faisant les calculs, que l'erreur de consistance en fait, fait apparaître... Il y a une compensation entre ce qui est dans le développement limité de y de tn plus 1 moins ce qui est dans le développement limité de y de tn plus delta t fois la fonction d'incrément. Phi delta t, tn, y de tn. Donc ça, vous faites tous les calculs et à la fin, vous allez vous montrer que les termes en delta t se compensent, enfin que tous les termes se compensent et qu'à la fin, il vous reste un reste d'ordre delta t carré. Et donc, ça permet bien de dire que la méthode de E n'est consistante d'ordre 2. Donc, ce qui est important dans cet exercice, pour conclure, et du coup, je vais revenir à la première page, c'est la méthode. C'est le fait que, 1, nous avons identifié la fonction d'incrément. 2, nous avons écrit l'erreur de consistance et nous sommes rendus compte que la fonction d'incrément ne doit être développée ici qu'à l'ordre, enfin explicitement qu'à l'ordre 1 avec un reste en grand taux de delta t carré. Et ensuite, en utilisant le développement qu'on connaît pour y de tn plus 1 et le développement de phi de delta t tz que nous avons obtenu, on fait le calcul et on voit que l'erreur qu'on a bien une consistance d'ordre 2.